chanter toute la nuit.
Des sauts de création.
Chapitre 28. La France subsidie ses radios, pas la Belgique. La Belgique subsidie ses TV, pas la France.
Comment expliquer qu'en Belgique francophone, les télévisions communautaires soient subsidiées et pas les radios associatives, alors que c'est justement l'inverse en France ?
Frédéric Jung.
Oui, je crois que ça, c'est vraiment des considérations historiques. Hein. Les choses se développent d'une certaine façon dans un pays, d'une autre façon dans un autre, au gré des forces qui se rencontrent et qui négocient. Très tôt, effectivement, la communauté française soutient des télévisions locales et communautaires et développe un réseau d'éducation permanente liée à l'audiovisuel.
Frédéric Antoine.
C'est que la communauté française de Belgique a tout misé sur les télévisions communautaires.
Pourquoi tout ? Au contraire de la France.
C'est-à-dire qu'en France, ils n'ont rien misé du tout sur les télévisions. En France, le secteur de la télévision a été uniquement laissé à des opérateurs privés ou à des initiatives régionales, mais il n'y a pas un franc de l'État français qui va pour financer des télés régionales ou communautaires. Et donc, c'est notamment dû au fait que en France, les radios ont émergé avant les télés. Les premiers mouvements de radio, fin des années 70, et alors la reconnaissance par Mitterrand des 81, c'est les premiers médias alternatifs qui apparaissent dans le paysage français. La télévision apparaîtra bien après. On n'imagine pas de faire de la télé en France, notamment parce que c'est un système de diffusion hertzienne, machin. Bon, c'est très compliqué. Alors qu'ici, ce fait que la télévision est apparue avant la radio. Si on refait toute l'histoire, les premières télés communautaires, c'est 75-76, c'est-à-dire avant les premières radios. Et dans un système que l'État a contrôlé très vite. Ça, c'est peut-être le deuxième élément. Les télés communautaires en Belgique, dès qu'il y a eu volonté d'émettre sur les câbles, etc., la communauté française a créé des commissions de travail. On a créé un cadre expérimental d'autorisation. Et donc, il y a eu un contrôle institutionnel de l'État vis-à-vis du fonctionnement des télévisions. Et de manière complémentaire, l'État a donné de l'argent. Tandis que les radios, en Belgique, en tout cas, sont nés dans un contexte qui n'était pas du tout contrôlé, qui était un contexte d'anarchie complète, dans lequel l'anarchie était même revendiquée, vu qu'on ne voulait surtout pas qu'il y ait une sorte de récupération par le pouvoir. Et donc les radios sont positionnées, en tout cas, les radios qui pourraient prétendre à une subsidiation, dans une sorte de contexte de contre-pouvoir ou d'anti-pouvoir, à mon avis. Tandis que les télés ont davantage joué le rôle du jeu du pouvoir. Très vite, le choix s'est fait de dire on investit dans la télévision, on sait que là, on pourra exercer un certain contrôle sur le mode de fonctionnement, tandis que sur les radios, il n'y a pas de contrôle possible, ce sont des outils qui fonctionneront de manière autonome.
Guy Stukens.
Et donc le danger des télévisions communautaires, c'est que ça devienne la télé du bourgmestre, et qu'on y voit à longueur d'antenne le bourgmestre, puis son échevin, le premier échevin, le deuxième échevin, etc. Et donc, aujourd'hui, les conseils d'administration des télévisions communautaires en communauté française sont effectivement des représentants des partis politiques, selon la répartition prévue dans le décret sur... je ne sais plus lequel, d'ailleurs. Enfin, bon. Et donc, c'est ça. Il y a eu, par exemple, dans le cas de Télé-Bruxelles, l'éviction des groupes comme la Ligue des Familles, comme Inter-Environnement, etc. À un moment donné, on les a mis dehors. Ça a été la même chose au Val de Scarbec. Hein. Donc, on vous donne des subsides, mais à ce moment-là, en échange, il n'y a plus que des politiques dans le conseil d'administration.
Par contre, je dirais, les radios associatives les plus mobilisatrices et les plus en pointe étaient clairement des radios très contestatrices, très lié à la mouvance anarchiste ou d'extrême gauche, hein, ou écologiste, mais de la première vague de l'écologie, celle qui courait dans les forêts avec radio Couvin, contre les barrages, contre les centrales nucléaires, donc associée à un mouvement de contestation très fort, et à mon avis, ou qui n'ont jamais réussi à se trouver les relais politiques des télévisions locales et communautaires. Car quand elles ont trouvé ces relais politiques, c'est à travers la mise en place des réseaux commerciaux. Et donc je crois que cette différence de relation au monde politique fait que il n'y a jamais eu de réelle intention de soutenir, je dirais, le cœur dur de la radio associative au sens où nous l'aimons bien, quoi. La radio de contestation, la radio d'expression, la radio d'engagement social et politique, parce que sans doute trop incontrôlable, parce que sans doute peut-être aussi d'impact politique insuffisant pour attirer vraiment l'intérêt des partis politiques.
Tous partis politiques traditionnels confondus.
Tous, oui. Ouais.
Est-ce que vous avez l'impression que les politiques ont toujours une perception des quelques radios associatives qui restent comme des poches d'anarchisme ou d'anarchie ou d'extrême gauche politique ou...
J'en sais rien, je ne sais pas. Enfin, j'imagine qu'il reste des archétypes qui remontent à 10-15 ans. Bon, ça c'est sûr. Et que donc là, les images subsistent toujours. Maintenant, ce que je suis persuadé, c'est qu'il n'y en a jamais un qui écoute le moindre programme qui est diffusé sur aucune de ces radios. Donc, il joue uniquement avec, avec une image. Mais aussi, je pense que même s'il n'associait pas ça à une image d'extrême gauche ou une image de gauche plus revendicative que la gauche classique ou quoi que ce soit, ils se disent aussi que à l'heure actuelle, les médias fonctionnent davantage comme des entreprises et que ce secteur-là, ce n'est pas le secteur de l'entreprise et que donc, il n'y a peut-être plus vraiment d'intérêt à lui apporter un soutien par rapport à la relance de l'économie qui est le discours dominant dans la société aujourd'hui.
Question à Henri Ingberg, secrétaire général de la communauté française. Pourquoi subsidiation des télévisions communautaires et absence de subsidiation des radios associatives d'expression ?
Pourquoi cette différence ? Eh bien, la réponse, parce que la question est tout à fait juste, c'est le nombre. Les télévisions communautaires, on a commencé aux alentours de 8, et en occupant petit à petit les différents arrondissements, on est resté à un total de 12. Les radios associatives, au départ, multiples, multiformes, partout, ce qui était d'ailleurs aussi leur qualité, leur effervescence, mais une telle démultiplication qu'à ce moment-là, on était devant une charge budgétaire incontrôlable.
Beaucoup font l'analyse que s'il n'y a pas eu subsidiation de radios associatives, ce n'est pas seulement en raison de la multiplicité des radios AED et des problèmes de difficultés de financement de la part de la communauté française, mais c'est parce que l'image des radios associatives était et serait restée l'image de groupes incontrôlables, anarchistes ou extrême-gauche, des choses comme ça, ce qui n'était pas le cas pour les artisans des premières télévisions communautaires. Quelle serait votre réflexion à ce sujet ?
Écoutez, moi, je ne suis pas dans le cœur et dans la tête de toutes les personnes qui ont participé au débat, donc je peux simplement vous dire quelle est ma perception à moi. Je crois vraiment, si d'emblée on avait dit, voilà, on va devoir faire un choix, mais on va reconnaître 12 radios associatives et on va leur attribuer un montant X, ce budget-là aurait été trouvé. C'est ma conviction. C'est ma conviction, en tout cas, dans tout ce à quoi j'ai participé moi-même. Deux, vous posez la question, elle est importante, de ce que vous appelez des associations incontrôlables, C'est vrai que les télévisions communautaires ont pris une dimension très vite pluraliste, application du pacte culturel, tandis que les radios associatives, ce ne sont pas des associations pluralistes, ce sont des associations volontaires qui peuvent avoir un engagement déterminé. C'est d'ailleurs ça, en même temps, leur qualité. C'est pas un défaut.
Panégynique.
Les vitamines de Satan. Une création de sans interdit de Radio Panique. Entre la cire charmeresse et la puissance et son chanteresse, furieuse nous poursuit. Contre les fourbes des incubes, des feuilletons et des succubes, bourreaux compagnons de la nuit, contre les aurores pâlissantes, des peurs et les frayeurs naissantes, des anges qui trompent nos yeux, et contre ceux que la manie travaille, tourmente et manie. Tu es toujours lieu et toujours contre l'amour barbare, les charmes, les sorcellages qui nous altèrent le cerveau.
Oui, donc ça, c'était dans la grande époque noire. Hein. Et c'était aussi un projet... Donc à l'époque, je m'intéressais, c'est ça, à tous ces écrivains romantiques noirs, un peu frénétiques et tout ça. J'avais envie, à nouveau, un petit peu dans la lignée d'Accord perdu, de créer une ambiance autour de ces lectures. Quoi. Donc j'ai choisi toute une série de textes, surtout de textes du 19e. Et alors, je leur ai accolé des musiques un peu inattendues, peut-être, puisque là, c'était pas du tout 19e, mais 100% contemporain et aussi très obscur dans ce type de création. Donc voilà, c'était aussi un projet, je dirais, d'ambition très modeste, quoi, hein, de créer une ambiance autour de certaines lectures, quoi. Disons que mes premiers projets, ça a été surtout ça, quoi.
Musica erotica.
Ben là, c'était la même chose, mais avec on va dire, des textes plus orientés sexe, hein, quand même. Sexe un peu noir, toujours, quand même. Hein, avec, ben là aussi, c'était un peu des lectures que j'ai découvertes à l'époque et que j'avais envie d'explorer. Et là, c'était aussi un peu une gageure de trouver, évidemment, des musiques illustratives pour ce genre de texte, sans tomber dans des trucs complètement vulgaires et immondes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, il y a deux gars de Radio Campus qui m'ont contacté, qui m'avaient entendu sur Accord perdu, sans doute, et qui faisaient une émission de truc érotique, quoi. Une émission érotique sur Campus. Et j'y suis allée et j'avais amené un texte. Et là, je me suis rendu compte aussi que mon texte était beaucoup plus littéraire et poétique, entre guillemets, que des machins quand même assez hard qu'ils lisaient. Et en plus, la musique qu'ils avaient choisie, c'était des machins planants à la Klaus Schulze, enfin des trucs que je trouve absolument abominables. Et c'était marrant parce que voilà, moi, dans Musica Erotica, j'avais trouvé une série de musique, mais qui correspondait pas du tout, qui était complètement aux antipodes de ce qu'eux pouvaient passer. Donc, et là, je me suis rendu compte, bon là, nos univers correspondent pas du tout, et j'ai plus remis les pieds à Campus. Suite à cette aventure, quoi.
Panique et Accord perdu présente
sur les traces du divin marquis. Chapitre 7, Orgie ferroviaire. Nécessaire de voyage d'Estelle, il se mit à lui taper dessus violemment. Les soins de Lamrosse la piquaient à chaque coup. Cette correction semblait l'exciter énormément. À ce moment, on frappa à la porte. C'est le signal convenu, dit Moni. Dans quelques instants, nous passerons la frontière. Il faut, je l'ai juré, tirer un coup, moitié en France, moitié en Allemagne. Enfile la morte. Moni, fille pendant, se rua sur Estelle qui les cuisses écartées le reçut dans son cou brûlant, criant « Mets-le jusqu'au fond, tiens, tiens !» Et sa cade de son cul avec quelque chose de démoniaque. Sa bouche laissait couler une bave qui, se mêlant avec le phare, dégoulinait infecte sur le menton et la poitrine. Moni lui mit la langue dans la bouche et lui enfonça le manche de la brosse dans le trou du cul. Sous l'effet de cette nouvelle volupté, elle mordit si violemment la langue de Moni qu'il lui la pincer jusqu'au sang pour la faire lâcher. Pendant ce temps, Cornabeu avait retourné le cadavre de Mariette, dont la face violette était épouvantable. Il écarta les fesses et fut péniblement entré son énorme vie dans l'ouverture sélénique. Alors il donna un recours à sa capacité naturelle. Ses mains arrachèrent, touffe par touffe, les cheveux blonds de la morte. Ses dents déchirèrent le dos d'une blancheur polaire et le sang vermeil qui jaillit vite, coagulé, avait l'air d'être étalé sous la neige. Un peu avant la jouissance, il introduisit sa main dans la vulve encore tiède et y faisant entrer tout son bras, il se mit à tirer les boyaux de la malheureuse femme de chambre. Au moment de la jouissance, il avait tiré déjà 2 mètres d'entrailles et s'en était entouré la taille comme d'une ceinture de sauvetage. Il déchargea en vomissant son repas tant à cause des trépidations du train qu'à cause des émotions qu'il avait ressenties. Moni venait de décharger, regardait avec stupéfaction son valet de chambre hoqueter affreusement en dégueulant sur le cadavre lamentable. Parmi les cheveux sanglants, les boyaux et le sang se mêlaient au dégueulis.
Et que personne ne l'oublie.
L'autre jour, je suis passé en télé, le boucher Colruyt m'a reconnu. Mais en radio, jamais il me reconnaîtra.